Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour, c'est le moment pour nous de parler de médiation. Donc, je vous l'ai promis, c'est vraiment important qu'on puisse faire le tour un peu de cet outil qui est extraordinaire, qui est essentiel, qui est central pour accompagner les enfants avec bienveillance. Et j'ai envie de dire, c'est bien au-delà de ça. C'est vraiment pour changer de paradigme culturel, pour passer d'une culture de violence à une culture de paix, pour sortir des relations de domination. Je ne vois pas d'autre solution. Donc évidemment, la médiation que je vous propose là va être orientée dans ces exemples sur les enfants, mais la médiation, c'est vraiment un outil qui se base sur la communication non violente et qui donc concerne toutes, absolument toutes, les interrelations que nous pouvons avoir les uns avec les autres et même au-delà, parce que c'est aussi une manière de communiquer avec soi. Vous avez remarqué comme moi que nous avons notre premier interlocuteur quotidien et même pour ce qui me concerne, je me parle aussi beaucoup la nuit, je me fatigue d'ailleurs, mais c'est vraiment avec nous-mêmes que nous avons le plus de dialogue. Et peut-être aussi c'est l'endroit qui est le plus difficile à dégoupiller et à cerner, à pouvoir transformer notre manière de nous parler à nous-mêmes, et c'est un énorme travail qui peut vraiment nous transformer la vie. De changer les paroles intérieures qui se promènent dans nos pensées tout au long de la journée et parfois même une partie de la nuit. Pour ce qui concerne ce podcast, on va vraiment s'atteler à voir comment je peux intervenir auprès des enfants en tant que médiateur. Alors déjà, j'ai envie de vous parler de la posture du médiateur. Le médiateur n'est pas un sauveur. C'est pas parce que vous allez rentrer dans la médiation que vous allez endosser la cape de Zorro et vous positionner à tout bout de champ en tant que sauveur. Ça serait contre-productif et extrêmement douteux comme démarche, parce que tout simplement, ça serait déresponsabilisant, d'une part, pour l'ensemble des interlocuteurs qui sont autour de vous. Et ce serait aussi quelque part un peu méprisant ou humiliant pour chaque personne humaine qui a cette capacité, cette même capacité que vous, à être des humains compétents. C'est juste que le médiateur, il va faire un peu le trait d'union, il va soutenir cette compétence. Donc c'est très important ça, je ne suis pas en train de démontrer d'une compétence pour en mettre plein la vue des médians, donc des personnes qui sont en difficulté pour communiquer ou pour s'entendre. Et je ne viens pas en aide avec cette arrogance-là. Au contraire, je viens en aide à la partie 2 qui est déjà compétente. C'est, je vois les autres comme des êtres de compétence. Je ne les vois pas dans leur manque. Je les vois dans leur plénitude d'humain. Et dans la confiance que chaque humain est légitime et chaque humain a une vérité qui est complètement valable, quelle que soit la situation, et que chaque humain a des clés pour sortir de là. Simplement, quand on est dans l'émotion, quand on est dans la dispute, quand on est dans l'adversité, on n'est pas en prise avec cette réalité. Et il se trouve que nous baignons dans une culture où on va au contraire nous maintenir un petit peu la tête sous l'eau, dans le sens que toute notre éducation et notre contexte relationnel tend plutôt à nous faire croire qu'on est fragile, incompétent, dépendant, soumis au regard de l'autre, au jugement de l'autre, à l'appréciation de l'autre, et que c'est ça qui fait loi, en fait. Hein. On a externalisé beaucoup nos responsabilités, plutôt que d'apprendre des tout petits à les reconnaître et les faire valoir. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment la posture du médiateur. Il est dans une posture d'humilité. Il est dans une approche de soutien. Et ce qui permet de bien comprendre ça, peut-être déjà, c'est l'écoute active de Thomas Gordon, qui est un premier outil extrêmement précieux que je vais essayer de vous traduire par un exemple. Moi, l'image que je m'en fais, c'est un petit peu comme un monte-charge, c'est un peu comme un ascenseur. C'est-à-dire, la personne vient se déposer auprès de vous et juste, on l'aide juste à monter dans sa prise de conscience de la situation jusqu'à ce qu'elle trouve par elle-même la porte de sortie et qu'elle puisse aller vers ce qui l'attend personnellement, individuellement et qui ne nous concerne plus à un moment donné. Donc nous, on est juste là comme une petite aide très importante, hein, c'est parce que c'est vraiment, ce sont des moments très qualitatifs. Et parfois décisif, parce qu'il y a des moments où obtenir cette écoute, ça peut changer presque une vie, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de chercheurs qui l'ont reconnu, qui ont fait le lien entre la résilience et la présence d'un témoin lucide, comme disait Alice Miller, ou d'une écoute bienveillante, de reconnaissance dans les yeux de quelqu'un de ce que je vis vraiment, de la vérité que je suis en train de traverser. Et ça peut vraiment faire basculer une situation. Donc moi, je vais prendre quelque chose qui n'est pas très dramatique comme exemple. Par exemple, un enfant qui vient vers moi et qui me dit « Moi, j'en ai marre parce que personne ne veut jouer avec moi. » « Ah, personne ne veut jouer avec toi ?»« Oui, c'est toujours pareil. Tu sais, Magali et Delphine, elles jouent ensemble et puis moi, j'ai pas le droit de jouer avec elles. » Ah, tes copines, Delphine et Magali, elles jouent ensemble. Et puis toi, tu n'as pas ta place dans ce jeu? Est-ce que c'est ça? Ben oui, parce qu'elles disent que je commande tout le temps, que je fais la reine, mais non. En plus, j'ai dit que je voulais pas être la reine cette fois-ci. Ah, toi, tu étais d'accord pour ne pas être la reine aujourd'hui? Ben oui, c'est pas vrai que je donne des ordres tout le temps. Je sais pas pourquoi elles disent ça. Parce que moi, en fait, je veux juste jouer avec elles. Et ça me dérange pas de faire le poney ou le petit chien. Donc toi, ce que tu dis, c'est que ce qui est important pour toi, c'est de jouer avec elles. Et que pour ça, tu peux faire un autre personnage que la reine. Tu peux faire le poney ou le petit chien. Mais oui, c'est ça. Pourquoi elles m'écoutent pas? Toi, tu trouves qu'elles... Elles n'entendent pas ça, ceux qui vivent chez toi, là. Ben non, j'aurais dit pourtant, mais on dirait qu'elles me font plus confiance. Ah, toi, tu pourrais avoir l'impression que là, elles ont plus confiance que c'est vrai que tu veux bien jouer un autre personnage. Ben oui, c'est ça qu'elles m'ont dit. Donc moi, ça m'énerve. J'ai vraiment... Je sais pas quoi faire avec ça, hein. Ah oui, toi, tu sais plus du tout comment faire, là. Oui. Eh ben, elles m'ont dit d'aller jouer avec les garçons. Moi, j'ai pas envie d'aller jouer avec les garçons. Elles t'ont proposé d'aller jouer avec les garçons? Ouais, mais... Pff, les garçons, tu sais, là, ils sont en train de jouer... Ils sont en train de jouer avec le ballon. Moi, j'aime pas trop jouer avec le ballon. J'ai pas envie. Alors, maintenant, je suis toute seule. Et oui, toi, t'as pas tellement envie d'aller jouer au ballon, puis tu te sens pas non plus de retourner vers tes copines pour continuer de t'expliquer avec elles. Bah, je sais pas. Je sais pas, peut-être que là, je veux... C'est un nouveau travail que t'as mis, là? C'est un nouveau plateau? Ah oui, ça, c'est si tu veux l'essayer, tu peux. C'est un nouveau travail. Moi, je vais rester un petit peu à l'intérieur, puis j'irai jouer plus tard, alors. Bah d'accord, pas de souci. Voilà, là, j'ai pris un exemple où l'enfant, il va trouver... Il n'y a pas vraiment de solution sur le problème, mais juste par l'écoute active, donc reformuler, refléter, faire miroir, mais jamais, sans jamais ni juger l'enfant, ni donner son avis, ni donner des recettes toutes faites de comment ça pourrait être. Pas donner de conseils. Donc, il y a ce qu'on appelle les 12 erreurs de communication de Thomas Gordon que je vais vous mettre dans les documents à télécharger si vous souhaitez. Donc, en évitant ces 12 erreurs de communication, mais en restant juste avec ce qu'est en train de vivre la personne, et ben on lui peut lui permettre de trouver des solutions par elle-même. C'est souvent un exercice que j'ai fait avec des adultes qui étaient enfermés dans une situation parfois relationnelle, parfois affective, parfois professionnelle, à ne pas savoir comment, quelle décision prendre. Et à chaque fois, c'est remarquable. Alors, ça ne veut pas dire que à chaque fois, l'écoute active permet de trouver la solution ou de sortir du problème. Mais parfois, ça, et très souvent, ça permet de se décaler de son problème, ça permet de faire vivre son émotion, son agacement, sa frustration, sa déception, sa désolation parfois, et de juste les laisser sortir, les laisser s'exprimer pour trouver un autre chemin petit à petit qui est plus paisible, qui est peut-être plus posé, plus raisonné, plus créatif aussi, imaginatif, où il y a des formes de solutions qui commencent à émerger. Donc ce n'est pas un outil magique, mais c'est un outil absolument précieux, une base du médiateur. C'est vraiment une base, c'est cette qualité d'écoute. Lorsqu'on commence la communication non violente, parce que là, la médiation que je vous propose, hein, c'est vraiment celle de Thomas Gordon, qui est issue de la communication non violente, eh bien on apprend que la première étape, c'est l'observation. Ce sont les faits. Et donc, ça peut être les observations du médiateur lui-même, quand il a assisté à quelque chose, mais surtout parce que son point de vue subjectif n'est pas très intéressant, hein, voire pas du tout intéressant parfois. Ce qui est très intéressant, c'est ce que chacun des médiants, donc de ceux qui sont en conflit, a vécu et vit dans cette situation. Et on va leur demander, la première action que fait le médiateur à ce moment-là, c'est, outre le fait d'écouter si vraiment l'émotion est vive et qu'il y a quelque chose à écouter en écoute active, une fois que ça s'est posé et qu'on peut rentrer davantage dans une interrelation avec l'autre partie, eh bien à ce moment-là, on peut vraiment demander à chacun, qu'est-ce qu'il a vécu? Parce que parfois les faits ne concordent pas. Et moi, ça m'est arrivé souvent. J'ai fait des centaines de médiations, hein, et une grande majorité avec des enfants. Et il arrive que les faits ne concordent pas. Déjà, le malentendu est déjà dans la vision ou la subjectivité, la façon subjective dont on a vécu les faits, ce qui s'est passé. Et moi, la première chose que je demande, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Eh bien, moi j'étais tranquillement assis là, en train de lire un livre, et puis Adèle est arrivée, puis elle m'a bousculée, et puis elle m'a fait mal, et puis après elle s'est mise à jouer avec cet instrument de musique, et ça a fait du bruit, et moi je ne peux plus lire. Ok. Donc toi, ce que tu as vécu, c'est que tu étais en train de lire, assise ici, et puis Adèle est arrivée. Tu dis qu'en s'asseyant, elle t'a fait mal et qu'ensuite elle joue de la musique et ça te déconcentre. Est-ce que c'est ça pour lire? Oui, je voulais être tranquille. Ok. Et toi, Adèle, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, j'avais juste envie de jouer et j'étais là avant et j'avais déjà choisi cet instrument et je voulais jouer ici avant. Donc toi, ce que tu dis, c'est que tu étais déjà venue t'installer ici avant que Lucie soit venue pour lire. Et puis, tu avais déjà choisi cet instrument et tu avais l'intention de jouer cet instrument ici. Est-ce que c'est ça? Oui, j'étais là avant. Si elle veut lire tranquillement, elle peut se mettre ailleurs. D'accord, donc toi, tu rajoutes que pour toi, comme tu étais là à jouer de la musique, si Lucie veut du calme, elle peut aller lire ailleurs. Est-ce que c'est ça que tu proposes? Ben oui. D'accord. Et ce qu'elle a dit aussi, c'est que quand tu t'es assise, ça lui a fait mal. Est-ce que tu te souviens de ça? Ben oui, mais c'est parce que je suis arrivée vite, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas lui faire mal. D'accord. Donc toi, ce que tu rajoutes, c'est que quand tu t'es assise un peu rapidement et puis ça l'a cogné, mais tu n'as pas voulu. C'était pas intentionnel. Tu voulais pas lui faire mal. Mais oui, je voulais pas lui faire mal, bien sûr. D'accord. Ok. Ça, ce sont les faits. Donc, on va demander à chacun qu'est-ce qu'il a vécu. Et là, peut-être que dans l'émotion, Lucie pourrait dire, si, tu m'as fait mal, tu mens. Non, je mens pas, je voulais pas te faire mal. Donc peut-être, voilà, une divergence, peut-être qu'elle pourrait rajouter, tu l'as fait exprès, t'es venu exprès t'asseoir là, t'as sauté sur le canapé, ça m'a fait mal. Donc peut-être la croyance de l'une que c'était exprès, et puis l'autre va dire, non, c'était pas exprès, je n'avais aucune intention de te faire mal. Donc là aussi, on va apporter des ressources, parce que là, il y a de l'émotion, donc on apporte des ressources dans le calme, dans la sérénité, en disant, et oui, toi, tu aurais l'impression qu'elle l'a fait exprès parce que tu l'as vu sauter sur le canapé. Oui, elle a fait exprès, j'ai bien vu. Alors peut-être qu'elle a fait exprès de sauter sur le canapé, mais pas pour te faire mal. Est-ce que ce serait intéressant qu'on lui pose la question? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. D'accord. Donc Adèle, est-ce que quand tu as sauté sur le canapé, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as fait ça et est-ce que c'était... Quelle était la raison? Moi, je trouve ça rigolo de sauter sur le canapé, mais j'avais pas du tout envie de faire mal à Lucie. C'était pas pour lui faire mal. D'accord. Lucie, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu ressens? Moi, j'ai eu quand même mal. Et elle fait, c'est souvent qu'elle fait pas attention à moi. Et moi, ça me fait mal après quand elle est brutale. D'accord. Donc, est-ce que tu aurais une demande à faire à Adèle? Bah, qu'elle fasse attention. D'accord. Donc, toi, t'aimerais qu'il y ait plus de douceur, en fait, et qu'on fasse attention à toi. Parce que tu veux pas avoir mal, ce qui est normal. Oui. D'accord. Adèle, est-ce que tu pourrais juste reformuler, répéter ce que vient de dire Lucie? Bah, elle dit que... Moi, je lui fais souvent mal et qu'elle veut pas avoir mal. Elle dit que je dois faire attention. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que c'est ça, Lucie? Est-ce que tu confirmes? Oui, c'est ça. Je veux plus de douceur et que tu fasses attention. D'accord. Est-ce que ça te va de respecter ça, Adèle? Oui, je vais essayer. Mais moi, j'aime bien sauter. Ouais, oui, je comprends que t'aimes bien sauter. Ouais. Mais alors, est-ce que peut-être on pourrait se donner une règle par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être quand il y a quelqu'un qui est déjà assis sur le canapé, c'est pas le moment de sauter ou quelque chose comme ça. Est-ce que t'as une idée, toi? Bah oui, parce que moi j'aime bien avoir toute la place quand je saute sur le canapé. J'aime bien qu'il y ait personne. D'accord, alors peut-être. Est-ce que vous auriez une idée d'une règle qu'on pourrait imaginer? Oui, ben moi je propose qu'on peut se jeter sur le canapé que quand il n'y a personne dessus. Sinon, ben on fait attention et on s'assoit plus délicatement. Ouais, ça a l'air bien comme règle. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi ça me convient aussi. D'accord. Ok. Donc, il reste. Une petite partie du problème qui était difficile pour vous, il me semble. Hein. Est-ce que c'est que Lucie a dit que quand elle est en train de lire, c'est difficile pour elle de se concentrer si tu joues de la musique juste à côté. Et puis toi, t'as dit que t'avais vraiment envie de jouer de la musique. Est-ce que l'une de vous aurait une solution par rapport à ça? Bon, en fait, c'est pas vraiment que j'avais envie de jouer de la musique, mais j'ai envie de jouer avec Lucie. Ça fait longtemps qu'elle lit et moi j'avais envie de jouer avec elle. Ah d'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas vraiment la musique qui t'intéresse là, mais c'est plus d'être avec Lucie, est-ce que c'est ça? Bah oui, mais Lucie t'avait dit que tu venais jouer maintenant. Moi j'attends. D'accord, donc en fait, t'aimerais savoir si Lucie est prête pour venir jouer. Oui, elle avait dit qu'elle venait, puis vient pas. Alors moi, ça m'énerve et après j'ai envie de l'embêter. D'accord. Donc toi, en fait, t'attendais qu'elle te rejoigne pour jouer, puis t'as attendu et puis comme elle n'est pas venue, bah, tu es venue Je veux de la musique à côté d'elle, comme pour attirer son attention. Oui, je veux qu'elle fasse attention à moi maintenant. D'accord. Donc, est-ce que tu as une demande à faire à Lucie? Bon, Lucie, moi, est-ce que tu es d'accord qu'on aille jouer? Parce que moi, j'ai installé tout le jeu, puis j'attends. Lucie, bah oui, bien sûr. D'accord. Moi, je savais pas que tu avais installé le jeu déjà. On avait dit après, que je viendrai après. Oui, mais moi, j'attends. Bon, d'accord. D'accord. Est-ce que tu veux juste bien me laisser finir ma page, mon chapitre? Je finis mon chapitre, regarde, j'ai plus qu'une page et après, je viens tout de suite après. Bon, d'accord. Donc, la proposition que fait Lucie, c'est qu'elle finisse son chapitre puis elle te rejoint. C'est OK pour toi? Oui, d'accord. Bah, je vais attendre là-bas avec le jeu. Et puis, je l'attends là-bas. D'accord? Ok, ça te va? Et Lucie, toi aussi, ça te va? Et voilà. Bon, là, je vous ai choisi une médiation qui est un peu longue, mais pendant les vacances de Noël, j'en ai fait des ultra courtes, qui étaient en train de ultra mal tourner, mais c'était super rapide parce que des fois, ça va très très vite. Par exemple, j'ai ma petite nièce qui est venue me chercher parce que sa cousine a écrit sur son dessin. Bon, vous connaissez cette situation, ça arrive souvent. Elle a écrit sur mon dessin et puis moi je voulais pas. Ok. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Oui. Ok. Est-ce que tu peux me montrer? Oui, regarde, là, elle a écrit toute une phrase à cet endroit-là, alors qu'en fait, là, j'allais dessiner, puis d'abord, je voulais pas qu'elle écrive sur mon dessin. Ok, je vois. Donc, Anouk, tu vois, Eva, elle voulait pas que tu écrives sur son dessin, et elle avait un autre projet pour cet endroit de la feuille, et elle est embêtée maintenant. Est-ce que tu as une idée? Comment on pourrait faire? Il n'y a qu'à gommer. Ah, ouais, mais là, ça va être compliqué parce que ce crayon-là ne se gomme pas. Mais moi, j'avais proposé de peindre par-dessus, mais Anouk, elle n'est pas d'accord. Anouk, tu veux pas que Eva efface ce que tu as écrit sur sa feuille? Est-ce que c'est ça? Je voulais pas, mais bon, maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord, elle peut peindre par-dessus. Ça te va, toi, Eva, de peindre par-dessus? Comme ça, tu n'as plus l'écriture que tu voulais pas sur ta feuille? Oui, d'accord. Voilà, terminé. Parce que là, elles avaient toutes les deux envie de trouver une solution. Vraiment. Elles sont super amies. Elles sont super contentes de se voir. Elles n'ont pas envie qu'il y ait d'embrouille. Et en même temps, elles tiennent à être respectées et faire respecter ce qui est important pour elles chacune. Et donc, on a trouvé très rapidement la solution. Et il y avait une telle bonne volonté de contribuer qu'il n'y avait pas d'obstacle. Et j'ai une autre situation qui s'est passée assez rapidement, mais qui est d'un autre ordre, complètement. C'est avec un cousin plus grand, toujours les deux petites filles, et elles sont en train de trier tous les crayons par couleur, et elles font pour chaque couleur une petite pochette en papier avec du scotch, et elles, comme un étui. Et elles rangent tous les petits crayons par couleur dans les étuis qu'elles sont en train de fabriquer. Donc, c'est un grand travail qu'elles ont entrepris. Et il y a le cousin qui est plus grand, qui lui est un peu tout seul, qui s'ennuie et qui attrape un crayon et qui le tient dans ses mains et qui ne veut pas le rendre. Donc, pareil, elle demande de l'aide aux adultes. Là, je crois que je suis dans une situation qui est assez facile, fluide, parce que pour plusieurs raisons, c'est que d'une part j'arrive, je n'ai pas d'enjeu avec aucun d'eux, je suis pas la maman de aucun, je n'ai pas de ni d'énervement, ni d'agacement, ni de, je n'ai pas un regard qui dit c'est bien, c'est pas bien, il y a des victimes, il y a des bourreaux, rien de tout ça, c'est juste neutre. Donc dans la posture, ce qui est important aussi, c'est de s'asseoir à hauteur des enfants. Bien sûr, on ne règle pas le truc avec les enfants assis par terre et puis vous, du haut de votre grandeur, qui vous adressez aux enfants. Donc on se met à hauteur, on s'accroupit, évidemment. Et là, je parle avec ce garçon qui a l'air désœuvré. Et je constate, je lui dis, tu as pris un crayon? Il dit oui. Tu as pris le crayon blanc? Oui. Et tes petites cousines, elles sont en train de ranger les crayons? Oui. Mais je suis avec elles. Tu es avec elles. Elle range les crayons. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'ai pris un crayon. J'ai pris ce crayon. Je le veux. Est-ce que tu as besoin de ce crayon? Non, pas vraiment, mais j'aimerais bien l'avoir. Ok. Et les filles, qu'est-ce qui vous pose problème? Ben, c'est que nous, on est en train de ranger tous les crayons. On voudrait ranger tous les crayons, ceux de la même couleur ensemble. C'est ça votre projet? Oui. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc, est-ce que tu serais d'accord de les laisser ranger tous les crayons? Et là, je me retourne vers les filles et puis je demande, mais une fois que tous les crayons seront rangés dans ces pochettes, on pourra les utiliser, bien sûr. C'est juste qu'ils seront bien rangés. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris le projet? Elle dit, oui, c'est ça. Quand ils seront tous rangés, ben après, on pourra mieux les utiliser. Ça sera plus pratique. Alors, je dis, d'accord. Donc, est-ce que c'est clair pour toi ce qu'elles sont en train de faire? Ben oui, elles sont en train de ranger tous les crayons, puis après on pourra les utiliser. D'accord, donc est-ce que ça serait OK pour toi qu'elles puissent ranger ce crayon-là aussi, puis que tu puisses les utiliser après? Et là, il n'a pas résisté. Et il a dit OK. Il était OK, quoi. Et tout le monde était OK et tout le monde était d'accord. Donc c'est aussi allé très très vite. Et ça a un petit peu surpris les parents parce que ce garçon a, dans son fonctionnement, l'habitude d'interférer en fait dans les jeux des plus petits notamment par ce qu'on pourrait appeler des prises de pouvoir. C'est sa façon d'exister avec les autres, d'après ce que j'ai compris, très souvent. Il va chercher l'endroit où il peut s'imposer. Donc le papa me dit que si la petite fille veut s'asseoir sur une pierre, sur un rocher, c'est le rocher qu'il veut. Si elle a trouvé un bâton, il a trouvé un bâton beaucoup mieux. Et c'est toujours comme ça. Voilà, c'est toujours comme dans un rapport de force qu'il va se positionner, très souvent. Alors toujours n'est pas le bon mot, évidemment, mais très souvent, ce que me dit le papa, c'est que il se positionne de cette manière-là et que c'est pour l'instant la manière qu'il a trouvée pour se manifester auprès des autres. Et qu'il y a un grand travail qui est entrepris par les parents pour sortir de là, mais que ça prend du temps. Pour plein de raisons que je ne vais pas exposer ici. Et évidemment, quand on est médiateur avec les enfants des autres, c'est toujours beaucoup plus facile parce que les jeux relationnels en cours n'ont pas de prise à ce moment-là, avec un médiateur qui est vraiment dans cette neutralité. Et c'est un cran au-dessus en termes de difficulté de trouver cette neutralité avec ses propres enfants pour pouvoir devenir des médiateurs chez vous ou avec des enfants dont vous vous occupez beaucoup régulièrement ou quand il y a une charge affective particulière dans la relation. Ce que je vous invite à repérer aussi dans les exemples que j'ai donnés, c'est le cheminement qui est très proche de celui de la communication non violente telle qu'on l'apprend, à savoir OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Donc on va vraiment suivre ce chemin et accompagner les médians sur ce chemin-là, en évitant aussi toutes les erreurs de communication de Thomas Gordon. C'est-à-dire que le médiateur, autant que possible, et bien sûr, il y a des fois où ce n'est pas une erreur de proposer une porte de sortie en tant que médiateur. Le médiateur, c'est aussi un être humain qui a des idées, qui a la créativité, l'imaginaire, etc., et qui peut le mettre au service de la relation. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on va mettre en avant. C'est vraiment au cas où on s'en sort pas, ou au cas où il y a une évidence qui vous vient et qui n'a pas été nommée par les médias eux-mêmes. Alors oui, c'est juste d'intervenir et de proposer peut-être une idée. Mais là, en l'occurrence, on va toujours essayer de susciter des idées de solutions qui viennent des médiants eux-mêmes, parce que ça sera toujours mieux vécu et plus profitable si ce sont les premiers concernés qui ont trouvé la solution et qui trouvent un accord qui leur convient de part et d'autre. Une autre précision d'importance, c'est qu'à la fin, on va très souvent vérifier que c'est OK pour les deux parties. Parce que des fois, on peut avoir l'impression qu'on a accompagné la situation et trouvé la bonne solution, et se rendre compte a posteriori qu'on n'était pas allé au bout. Et que finalement, il y a un des médiants qui était un peu resté sur le carreau et pour qui c'était pas vraiment OK la solution. Donc ça demande beaucoup de vigilance et d'attention à différents endroits. D'abord en termes de posture, garder la neutralité, vérifier que émotionnellement on est OK, qu'on est vraiment au service de la situation, mais sans être un sauveur. Ensuite, c'est dérouler ce cheminement ou un cheminement qui soit équitable. Quand on demande quels sont les faits, qu'est-ce qui s'est passé, on demande à l'un puis à l'autre. On vérifie bien la concordance des faits. S'il n'y a pas de concordance, parfois on est obligé d'y renoncer. Mais on part de là, on se dit, ben voilà, visiblement vous n'avez pas vécu la même chose. Pour l'un c'était ça et pour l'autre c'était ça. Mais on avance quand même. Donc on va demander, et toi comment tu te sens dans cette situation? Et puis toi, comment tu te sens dans cette situation? Et ensuite, t'aurais besoin de quoi? De quoi? C'est quoi le besoin? Ben moi, j'aurais besoin de lire tranquillement. Et puis autre, mais moi, j'ai besoin de jouer. J'ai besoin de compagnie. Ok. Et quelle solution on peut trouver? Ben voilà, ma solution, c'est que moi, je finis mon chapitre et puis après, je te rejoins pour le jeu. Est-ce que ça te convient? Ah ben oui, d'accord. Donc moi, j'ai préparé le jeu et je t'attends là-bas. Ça, c'est une solution qui est co-construite et qui donc est valable, va forcément fonctionner et apporter de la paix, de la sérénité chez les uns et les autres. Les exemples que j'ai pris aujourd'hui n'ont rien de très dramatique. Ce sont de petits exemples avec des petites situations. Mais vous savez comme moi que ça peut être très pénible lorsque les enfants n'ont pas appris à trouver des solutions gagnant-gagnant et donc sont vraiment souvent dans des rapports de force et de pouvoir qu'ils ont appris des adultes, hein, évidemment. Donc ça vient pas tout seul. Mais la médiation, c'est bien entendu un outil qui est parfaitement adapté à des situations beaucoup plus dramatiques. Alors encore une fois, ça n'est pas la panacée universelle, ça n'a rien de magique, la médiation. C'est vraiment plutôt qu'emprunter un chemin. Le chemin du connu, qui est celui du rapport de force, du rapport de pouvoir, du rapport de domination, du chemin de l'émotion, des manifestations émotionnelles, des réactions émotionnelles. On va s'efforcer d'utiliser un autre chemin qui nous paraît beaucoup plus constructif et qui va utiliser aussi une autre partie de nous-mêmes, une autre partie de notre cerveau, qui va aider les enfants à élaborer dans leur cerveau, dans leur néocortex, à faire remonter l'information émotionnelle dans le néocortex, avec l'idée que on peut imaginer des solutions qui soulagent tout le monde, qui sont bénéfiques pour chacun. Même si peut-être la solution elle n'est pas idéale, que même peut-être moi j'aurais fait autrement, mais comme il y a l'autre, eh ben je vais m'adapter aussi à l'existence de l'autre pour trouver une solution qui est acceptable. Dans des situations beaucoup plus dramatiques, moi souvent, c'est avec les adultes que je les ai vécues les plus intenses, parce que chez les enfants, il y a tellement une forme de légèreté, d'amour de la vie, d'amitié un peu comme ça, qui surplombe le paysage, qui fait qu'il y a vraiment le plus souvent une intention très constructive de sortir de la situation de la manière la plus juste possible. Les enfants, ils ont un sens aigu de l'injustice et de la justice. Donc évidemment, le médiateur ne doit pas faire le moindre faux pas en termes d'injustice, par exemple, interpréter ce que les intentions de l'un, ou en tout cas, s'il le fait, il doit tout de suite faire amende honorable et puis dire qu'il s'est trompé. Mais le mieux, c'est d'éviter tout à fait ce genre de situation, parce qu'on perdrait la confiance au moins d'un des médiants, et ça, ce serait vraiment préjudiciable pour la médiation. Également, il ne doit pas prendre parti, ça va de soi, ni imposer ses valeurs de ce qu'est pour lui le bien et le mal, ou de ce qu'est pour lui l'acceptable ou l'inacceptable. Lorsqu'un médiateur fait une médiation, il ne s'agit pas de lui. Donc sa vérité, on s'en fiche totalement, ça n'est pas le sujet. C'est vraiment la vérité des médiants qui sont là, qui importe. Voilà. Je pense que pour une première approche, je vous ai donné déjà pas mal de clés et je serais très intéressée de vous entendre sur tout ça pour qu'on puisse approfondir. Donnez-moi des situations également où vous n'avez pas de solution, où il n'y a pas d'issue, où il y a des disputes ou des discordes sans fin. Oui, une chose que je voulais rajouter et qui est en train de me revenir, c'est que avec les enfants, lorsqu'on est face à des situations un peu inextricables ou qui trouvent difficilement une issue gagnant-gagnant, comme on dit, c'est que le plus souvent, il y a autre chose derrière, quelque chose qui dépasse le cadre de la relation entre deux enfants, par exemple, pour venir interpeller des problématiques plus vastes, familiales, affectives, du contexte que vit l'enfant et qui le pousse à agir d'une certaine manière envers ses camarades, mais qui n'a rien à voir avec ses 10 camarades en fait. Donc parfois et bien souvent dans le cadre d'une école telle que ça a été le mien pendant des années, quand il y a des situations qui ne se règlent pas ou qui sont récurrentes entre des enfants et que ça patauge dans la semoule en fait, il y a quelque chose qui revient et qui revient. Par exemple, un enfant qui tape et qui tape et qui retape, ça n'appartient pas forcément à la relation entre deux enfants à ce moment-là. Il y a quelque chose de plus profond et de plus personnel à aller chercher. Et à ce moment-là, on va engager un travail avec la famille pour voir ce qui se passe pour cet enfant-là. Donc nous, on avait un processus qu'on appelle processus d'accompagnement qui venait lorsque 3 médiations de même ordre avaient lieu et que la situation ne s'améliore pas au bout du compte. Donc à ce moment-là, on rentrait dans une autre phase, une nouvelle phase qui dépassait largement le contexte juste relationnel entre camarades. Et pour l'enfant qui n'arrive pas à maîtriser son geste, par exemple lorsqu'il s'agit de taper, eh bien on va engager avec lui plusieurs séances de rencontres avec ses parents, avec peut-être son référent au sein de l'école, pour trouver des solutions que la médiation n'a pas à ce moment-là. Voilà, donc la médiation, c'est encore une fois pas un remède universel, mais juste un outil extrêmement précieux à tout moment et dans beaucoup de circonstances de la vie. Et c'est aussi une posture et c'est aussi un art de vivre. Donc je rejoins complètement cette formulation de Marshall Rosenberg concernant la communication non violente comme art de vivre, parce que c'est encore une fois sortir du paradigme de la violence et de la relation de domination pour rentrer dans le paradigme de la paix et d'une véritable bienveillance où les relations de pouvoir sont abolies. Voilà, j'espère que ce podcast vous sera utile. En tout cas, j'ai eu plaisir à partager et je suis curieuse et intéressée pour continuer à partager cette thématique et approfondir avec vous. À bientôt!